Chers amis, depuis vendredi soir, nous nous sommes penchés sur le chapitre 4 de l'évangile de Jean, qui nous présente une femme de Samarie. Et en commençant notre étude, nous avons jeté un regard sur le chapitre 3e pour situer notre récit. Et au chapitre 3e, nous avons vu Jésus à Jérusalem qui avait fait des miracles et qui avait manifesté une grande puissance. Beaucoup de monde s'était tourné vers lui et avait confessé croire en lui. Mais nous avons découvert que Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, à tous ces gens qui avaient assisté aux manifestations de sa puissance, qui avaient entendu sa parole et qui avaient professé croire en lui. Lui ne se fiait pas à eux. Et je me demande ce matin si le Seigneur peut se fier à notre foi, nous qui sommes ici rassemblés plus nombreux. Je ne vais pas vous relire ce chapitre 3 qui nous a occupés ces jours, parce que je ne vais pas vous imposer de nouveau cette lecture. Nous l'avons fait hier soir. Mais à tous ceux qui n'ont pas pu, pour toutes sortes de raisons, être avec nous dans ces études de fin de semaine, je leur dirai, quand vous rentrerez à la maison, lisez vous-même le chapitre 3 de l'évangile de Jean, où vous découvrirez un homme religieux qui a été impressionné par les paroles et les miracles de Jésus et qui voudrait en savoir plus. C'est un théologien, c'est Nicodème. Et comme il a peur de ses concitoyens, comme il est un chef des pharisiens, il ne veut pas se compromettre, de sorte qu'il va à Jésus de nuit. Et nous le disions, il est préférable d'aller de nuit à Jésus que de ne pas y aller du tout. Ne jugez pas Nicodème. Et nous avons pu nous rendre compte dans la suite que l'œuvre de Dieu s'était faite dans le cœur de Nicodème et que finalement il s'est trouvé au tombeau de Jésus, apportant les aromates pour la sépulture du Seigneur qu'il avait rencontré et qui lui avait dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer et tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et nous avons souligné que Nicodème n'avait rien compris, d'abord. Et le discours de Nicodème avait cette conclusion, après avoir entendu les paroles de Jésus, comment ces choses peuvent-elles se faire? Dans le chapitre suivant, nous avons vu non plus un homme qui cherche Dieu, mais nous avons vu Dieu cherchant une âme et se révélant à cette âme, lui manifestant très simplement qui il était. Il était celui qu'elle attendait sans le connaître, le Messie, sauveur du monde. Et c'est à cette femme païenne, c'est à cette femme malheureuse dans sa vie, elle avait eu Saint-Marie, avons-nous vu, et puis elle n'avait pas trouvé le bonheur. On croit qu'on a le bonheur dans le mariage. C'est pas sûr du tout. Si c'est cela votre intention, bien je vais me marier et puis je trouverai le bonheur. Elle n'a pas trouvé le bonheur ni avec le premier, semble-t-il, ni avec le second, ni avec le troisième, qu'il soit mort ou qu'elle ait divorcé. Elle en a eu un quatrième. Elle n'a pas été heureuse non plus, de sorte que le mariage ne rend pas nécessairement heureux. Et nous le savons bien. Pour finir, elle a vécu avec un cinquième, un sixième, qui n'était pas son mari. Elle devait rencontrer le septième. Et le septième allait se révéler à elle, c'est Jésus. Elle pouvait lâcher celui qui n'était pas son mari. Et qui est-ce qui n'est pas notre mari? Nous l'avons vu hier soir, c'est Satan. Satan qui nous a fait croire que dans le mariage, on allait trouver le bonheur. Et nous nous sommes aperçus que, hélas, le bonheur, il est dans celui qui a institué le mariage. Mais il n'est pas nécessairement dans le mariage. Et si on a affaire avec celui qui a institué le mariage, on a le vrai sauveur, le libérateur, qui nous délivre de cette cruche quotidienne qui nous apporte tant de soucis, tant de peines, tant de chagrins. Elle a laissé sa cruche. Bien, chers amis, nous allons ce matin terminer notre étude par une conclusion et comme les instants qui vont suivre cette prédication sont ceux qui sont le plus chers à nos cœurs, nous allons répondre au désir du Seigneur qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous allons parler très simplement dans ces moments de ce que le Père attend de nous qui sommes rassemblés ici. Au chapitre 4 de Jean, dans ce récit, où nous voyons le Fils de Dieu lui-même cherchant une âme et faisant tout ce chemin à travers la Samarie qui n'était pas facile, eh bien, nous allons maintenant l'entendre nous dire ce qu'il attend de nous. Lorsque la femme samaritaine a voulu parler de religion, le Seigneur lui a dit ceci. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Verset 22. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle le Christ. » Elle ne sait pas encore qu'elle est en face du Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et quelle est la réponse de Jésus? je le suis. Moi qui te parle. À cette femme, le Seigneur se révèle. Elle se demandait où l'on devait adorer. Était-ce sur la montagne de Garizim où ses compatriotes avaient élevé un temple, ou était-ce à Jérusalem où les Juifs prétendaient que c'était le seul lieu où l'on pouvait adorer. Et évidemment, les Juifs se basaient sur l'Écriture sainte, en particulier sur le chapitre 12 du Deutéronome, où il est dit « Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous n'adorerez pas le Seigneur n'importe où dans un haut lieu, mais vous rechercherez le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. » Mais maintenant, ici, le Seigneur nous montre une vérité nouvelle. L'heure vient où on n'adorera plus ni sur une montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Où? Eh bien, nous le savons dans le chapitre 18 de Matthieu, au verset 20e, le Seigneur dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et je veux croire ce matin que nous sommes assemblés en son nom et que nous sommes conscients de la présence du Seigneur, qui nous révèle que le Père, d'où il vient, cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Est-ce que notre culte ce matin sera vraiment un culte en esprit et en vérité, qui répond vraiment au désir du cœur du Père? Est-ce que nous sommes conscients que en Jésus, nous avons trouvé un Père? C'est la révélation merveilleuse qu'il nous fait. Sans Jésus, nous ne connaissons pas Dieu. Il n'y a pas de connaissance réelle et complète de Dieu en dehors de Jésus. Si nous voulons connaître Dieu, c'est par le Fils de Dieu que nous pouvons prendre conscience de ce que Dieu est. Et je souligne cette vérité. Est-ce que nous connaissons le Père? Quand nous connaissons Jésus, Jésus nous amène au Père. Et c'est le Père qui nous a attirés à Jésus pour qu'il nous sauve. Et une fois que nous sommes sauvés, à qui appartenons-nous sur la terre? Au Père. Nous appartenons au Père. Et toute chose dans notre vie doit être en accord avec la volonté du Père. Et cette volonté du Père, le Seigneur nous l'a manifestée d'une façon parfaite. Il disait même que pour lui, c'est ce que nous avons étudié, sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Et il y a tant de gens aujourd'hui qui se demandent pourquoi ils existent. Mais le vrai chrétien, celui qui est né de nouveau, il sait pourquoi il existe. Il existe pour faire la volonté du Père. Et cette volonté, il recherche à la connaître. Vous avez chanté « Cherchez les choses de Dieu, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Quand on connaît le Père, on a tout pleinement en lui. Et c'est ce que nous voudrions qu'il reste de ses études. Cette femme a découvert en Jésus le Fils unique de Dieu, elle a pu devenir en Samarie le témoin du Seigneur. Et ce que je voudrais vous lire encore, puisque nous avons parlé du chapitre 3 de Jean, qui précède l'histoire de cette femme de Samarie qui a été cherchée par Dieu et qui a trouvé le Seigneur, et la paix avec lui, et qui est devenue son témoin en Samarie. Je voudrais vous lire la fin de ce chapitre à partir du verset 43. Après la confession des Samaritains qui peuvent dire à Jésus et à cette femme que ce n'est pas à cause de son témoignage seulement qu'ils ont cru, mais ils ont entendu le Seigneur. Et ils savent maintenant qu'il est le vrai sauveur du monde. Et je lis ce verset 48. Quand les Samaritains vinrent à Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta 2 jours. Le témoignage de cette femme les a amenés à Jésus. Et quand ils ont vu Jésus, ils lui ont demandé de rester 2 jours. Et j'ai pensé à ceci. Dans les psaumes, il est parlé qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Rester 2 jours, rester 2000 ans. Nous arrivons vers l'an 2000. Le Seigneur est resté avec nous 2 jours. Et que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous attendez pour l'an 2000? Oh, comme je voudrais, sans mettre de date, que vous puissiez dire, nous attendons le Seigneur. Cette femme, qui n'avait pas beaucoup de connaissances, elle savait une chose. Je sais que celui qu'on appelle le Christ vient. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Est-ce que nous sommes proches de la venue du Seigneur? Est-ce que vraiment nous l'attendons parce que nous avons connu en lui celui qui est le sauveur du monde, celui qui nous a délivrés? Et il est ajouté, après ces 2 jours, Jésus part. Et il se rendit en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Il avait été élevé à Nazareth, en Galilée, et quand il a voulu témoigner de ce qu'il était, il a été méprisé par les siens, et il avait quitté la Galilée pour aller à Jérusalem, d'où il était né, à Bethléem, dans la Judée. Et hélas, là non plus, il n'avait pas été reçu. Et c'est pourquoi, passant par la Samarie, il retournait en Galilée. Car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. On avait été impressionné par ce que Jésus avait opéré à Jérusalem. Ces Galiléens avaient été là et pouvaient parler de ce qu'il avait fait. Mais Jésus ne s'était pas fié à leur foi. Et c'est là ce que je voudrais vous laisser. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Est-ce que nous sommes de ceux qui aujourd'hui prient et désirent des miracles pour qu'il y ait un grand réveil ? S'il y avait des miracles, il y aurait un grand réveil. Nous ne le croyons pas. Car au bout de peu de temps, votre impression se change. On donne des explications et on n'y croit plus. Le réveil, chers amis, si vous l'attendez, il ne vient pas de miracles. Il vient d'une foi toute simple dans la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire que le Seigneur descende. Il est descendu. Alors, maintenant, ce que nous voulons croire, c'est à sa parole. Ce qu'il a dit, nous le croyons et nous n'avons pas à attendre de voir quelque chose. Nous avons à croire ce qu'il a dit. Et vous constatez, en lisant l'Écriture, cet homme crut à la parole de Jésus qu'il avait dite et il s'en alla. Comme il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Ce que Jésus dit, il l'accomplit. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maisonnée, mes amis. Nous avons des difficultés dans nos familles, dans nos foyers. Eh bien, soyons de ceux qui croient les paroles de Jésus et nous verrons nos foyers, nos familles se transformer. Et nous verrons des réelles conversions, des réelles nouvelles naissances. Et notre cœur sera plein de louanges et d'actions de grâce. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit son fils vit. Il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. C'était à Cana qu'il avait fait son premier miracle et puis maintenant il en fait un second, en guérissant un enfant mourant par une seule parole. Il n'a pas besoin d'être là visiblement, et pour nous aussi, si nous voulons croire aujourd'hui, nous pouvons faire l'expérience de cette puissance merveilleuse qui va tout changer en nous et tout transformer. Que le Seigneur de grâce vous bénisse et vous garde, et que nous puissions vraiment entrer ce matin dans une véritable louange, dans une véritable adoration. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour moi, le culte d'adoration, c'est la plus grande réunion d'évangélisation. parce que ce n'est pas un homme qui vous appelle, c'est Jésus lui-même qui voudrait que vous ayez un contact personnel avec lui. Et qu'en mangeant le pain, vous puissiez croire cette parole, qu'elle vous pénètre, et qu'en buvant à la coupe, vous puissiez aussi croire que tout ce qu'il a dit va se réaliser et que vous n'avez plus un Seigneur extérieur à votre vie, mais vous avez un Seigneur intérieur. Il vit en vous. Il n'est pas à côté de vous. Il est en vous et c'est lui qui accomplit en vous la volonté de son Père. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde et que nous ayons vraiment ce contact personnel avec lui ce matin pour sa seule gloire en Jésus-Christ. Amen.
Et ça, c'est ce que les scientifiques veulent bien nous dire dans leur magazine. Imaginez toutes les choses qu'on peut faire aujourd'hui et qui ne sont jamais mentionnées sans ce que le monde crierait à l'extérieur. Et parce que nous, les enfants de Dieu, vivons à cette époque tellement spéciale aujourd'hui, nous avons besoin, plus que n'importe quelle autre génération de chrétiens, de faire attention à ne pas être séduit par la pensée du monde, par les philosophies du monde, et de se tenir à la parole de Dieu, la connaître, cette parole-là, par révélation, et se tenir debout sur cette parole-là, même si tout le monde est contre les idées de la parole de Dieu. C'est encore la parole de Dieu. Jésus dit, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Elle est aussi à la mode aujourd'hui, dans les années 1990 que nous commençons, qu'elle était à la mode il y a 2000 ans, lorsque les premiers disciples ont été baptisés dans la chambre haute. Est-ce que vous croyez ça ce soir? Parce que c'est la parole éternelle de Dieu. Et Paul nous dit ici dans son épître aux Éphésiens, il nous dit de ne plus être des enfants emportés à tout vent de doctrine. Et autant de fois, il y en avait des vents de doctrine, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de vent de doctrine différent comme nous en avons aujourd'hui à notre époque et dans notre génération. Qui dit la vérité? Vous écoutez les gens prêcher aujourd'hui et vous avez toutes sortes de messages. Comme je dis souvent, quand on était sauvé il y a 22 ans passés, c'est bien moins compliqué qu'aujourd'hui. Il y en avait une, deux sortes à peu près. Il y avait les bons puis les pas bons. Il y avait les autres puis eux autres. Comprenez-vous? T'étais avec eux autres ou t'étais avec les autres. Mais aujourd'hui, il y a toutes les teintes possibles. Toutes les ombrages possibles. Il y a toutes sortes de vents de doctrine, toutes sortes de religions, toutes sortes de déluminations. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de groupes religieux différents partout dans le monde. Et le Québec ne fait pas exception. Vous allez dans des petits villages. Autrefois, dans le petit village, il y avait juste une religion pour tout le village. Et aujourd'hui, vous allez même dans les petits villages de notre province de Québec et vous trouvez des dizaines de groupes différents qui prêchent toutes sortes de doctrines différentes. Et vous et moi, si nous avons l'intention de garder ce que Dieu nous a donné, et si nous avons l'intention de nous rendre debout et de paraître debout devant le Fils de l'homme qui doit venir certainement très bientôt, on a besoin de savoir qu'est-ce que ce livre-là dit aux gens. Parce qu'il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre où on a prêché toutes sortes de choses publiquement. Télévision, radio, journaux, cassettes, églises. Nous sommes dans une époque de communication extraordinaire. Autrefois, ça prenait des semaines, des mois, des fois des années avant d'apprendre des nouvelles. Il y a plusieurs... pour les nouvelles de 6 heures le soir à la télévision en direct, monsieur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, à cause des satellites qui encerclent notre globe, on peut tout savoir ce qui se passe sur cette planète. Il n'y a aucune cachette possible dans ce monde aujourd'hui. Grâce à la technologie de communication moderne, on peut savoir, vous pouvez avoir un laboratoire au Texas, au bout des États-Unis. Et ces gens-là veulent savoir ce qui se passe ici, dans cette église ce soir, c'est un jeu d'enfant. Via les satellites qui encerclent notre globe, on vient chercher l'image qu'il y a ici de chacun de vous. Et on peut même avoir la voix en même temps, et on peut voir et entendre ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se passe ici à des milliers de milles de distance, c'est amené sur un petit moniteur d'écran de télévision et quelqu'un assis confortablement dans un studio peut savoir et visionner ce qui se passe ici dans cet endroit. Les hommes de science aujourd'hui nous disent non seulement on peut balayer la surface de la Terre, mais on peut descendre, je me souviens pas le nombre de pieds qu'ils nous ont dit, mais assez creux, sous la croûte terrestre pour savoir également ce qui se passe. Si vous dites, moi, il n'y a pas de problème, j'ai un souterrain. Je n'ai pas rien qu'un sous-sol, j'ai 12 sous-sols chez nous. Et si je veux me cacher, je m'en vais dans mon 12e sous-sol. C'est pas à la cachette, là, non plus. On peut aller chercher l'image dans ton 12e sous-sol et l'amener sur un moniteur de télévision. Si les hommes sont capables de faire ça, imaginez-vous comment il n'y a rien de caché à Dieu, lui qui a créé les hommes avec la poussière de la terre. Il n'y a rien de caché. Et à cause de cela, nous entendons évidemment énormément. Nous entendons plus que n'importe quelle génération avant nous. Et c'est pourquoi, d'autant plus, il faut faire attention, qui est-ce qui dit la vérité dans tout cela? Pouvez-vous me le dire? Et souvent, je remarque ça, parce que je suis sur la route continuellement. Il y a un prédicateur qui va venir, prêche une certaine vérité de la parole de Dieu. Les chrétiens disent « Amen ». Deux semaines plus tard, un autre prédicateur vient, il prêche exactement le contraire. Et les gens disent « Amen ». Il y en a un des deux qui n'est pas correct, sûrement. Et vous, comme moi, avons besoin de savoir pour nous-mêmes, qu'est-ce que c'est la vérité? Vous allez devoir, dans ces derniers jours, mettre un petit peu de temps, retrousser vos manches, fouiller le livre de Dieu et apprendre pour vous-même qu'est-ce que c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien, dans ces derniers jours, vous ne pouvez plus vous fier à la parole de personne. Vous ne pouvez pas vous fier à la parole de Mario Mexican. Quelquefois, tu ne peux pas l'empêcher, évidemment. Les gens, des fois, disent « Ah, bien, Mario Mascotte l'a dit, c'est comme ça. » Non, ce n'est pas nécessairement comme ça, parce que Mario Mascotte l'a dit. Vous devez l'apprendre pour vous-même de la parole de Dieu. La Bible dit de vérifier. La Bible dit d'éprouver les esprits. La Bible dit de vérifier si c'est vraiment ça dans la parole de Dieu. Et ça ne s'apprend pas en 5 minutes, ni en 5 jours. C'est une question de penser régulièrement du temps à apprendre la parole de Dieu. Sinon, vous êtes une foi facile pour la séduction. Qui dit vrai aujourd'hui? Quelques temps passé, en train de préparer un message, le Seigneur m'a montré d'une façon particulière un certain passage qui s'applique parfaitement à ces derniers jours et à ce message que je suis en train de vous communiquer ce soir, et c'est l'histoire de David et d'Absalom. Vous connaissez David, le roi, vous connaissez Absalom, son fils, vous connaissez comment Absalom s'est rebellé contre son père, contre le royaume de son père, et comment, dans le royaume de David, il est venu faire de la cabale pour essayer de trouver tous ceux qui avaient des commentaires négatifs contre David, tous ceux qui chiolaient contre David. Toujours le même procédé, vous savez, quand il y a des divisions d'église, c'est exactement la même chose. Il y en a deux, trois têtes fortes qui se lèvent et ils vont essayer de chercher dans l'assemblée qui n'est pas satisfait du pasteur, qui n'est pas satisfait de la couleur du tapis, qui n'est pas satisfait de ci, de ça, et il y a des groupes qui se forment. Même chose avec Absalom. Former un groupe, c'est devenu une armée. Et non seulement c'est devenu une armée, mais à un moment donné, Absalom déclare la guerre contre son propre père, David. Et les deux armées, celle d'Absalom et celle de David, doivent se rencontrer, imaginez-vous. Les gens du même royaume qui doivent s'affronter en guerre. Deux armées du même royaume qui s'entretuent ensemble. Et David est dans une drôle de situation, parce que c'est son fils qui est à la tête de l'armée adverse. Et ses conseillers ont dit, David, viens pas sur la champ de bataille. D'une part, c'est trop dur pour toi, c'est ton propre fils. Et si jamais tu étais face à face avec ton propre fils, certainement tu ne tuerais pas ton propre fils. Et deuxièmement, nous on ne veut pas te perdre, soudainement, s'il arrive un malheur et que tu es tué, on ne veut pas te perdre comme roi, alors reste ici. Et Joab a pris le commandement de l'armée de David et sont partis en guerre contre l'armée de Salomon, d'Absalom. Et la Bible nous dit dans 2 Samuel, chapitre 18, qu'à un moment donné, au cours de la bataille, Absalom est monté sur son mulet, et il est en train de traverser une forêt, et son mulet, évidemment, il y a un mouvement de haut et de bas, et à un moment donné, il passe sous un térébinthe qui a des grandes branches, et des branches assez basses. Et alors qu'il est là avec son mulet et qu'il passe dans la forêt, il passe sous ce térébinthe, et lorsqu'il saute, sa tête reste prise entre deux branches de térébinthe. Et le mulet a continué, évidemment. Et Absalom est resté accroché, la tête dans les branches du térébin. Ses pieds ne portaient plus à terre. Il ne pouvait pas s'échapper. Il ne pouvait pas sortir de ce piège-là dans les branches du térébin. Et soudainement, il y a un soldat de l'armée de David qui était conduit, comme je vous ai dit, par Joab, le commandant, qui l'a vu. Et tout de suite, il a couru vers Joab. Et il a dit, « Hey, hey! » Et dit, j'ai vu Absalom. Il est pris entre les branches d'un térébin. Et il est à notre merci. Qu'est-ce qu'on fait avec? » Et Joab dit, « Mais tu ne l'as pas tué. » Mais je n'ai pas pu faire ça. Tu sais ce que le roi nous a dit, David, avant de sortir. Faites attention au jeune Absalom. Et il dit, « Même si on m'avait payé, j'aurais jamais enlevé la vie du fils du roi. » Joab dit, « Tu aurais dû lui enlever la vie. Je vais y aller, moi. » Et il s'est emmené avec trois lances, trois javelots. Et il s'est approché d'Absalom et lui a planté trois javelots en plein cœur. La Bible dit alors qu'il était encore plein de vie entre les branches du térébin et il est mort là. Maintenant, à cette époque-là, il n'y avait pas le service de la Société des Pères, comme nous avons aujourd'hui. Gloire à Dieu pour cela, parce que ça allait peut-être plus vite. Et ce qu'ils avaient à la place, au lieu de maler une lettre avec un timbre, il y avait ce qu'on appelait des coureurs. Vous des coureurs des bois ici au Québec? Avez-vous déjà couru les bois? Non? OK. Il y avait des coureurs à l'époque de l'Ancien Testament et c'est eux qui allaient porter les nouvelles aux quartiers généraux ou aux rois qui n'étaient pas venus sur la chambre d'attaque. Et comme c'était la coutume, voici qu'il y avait plusieurs coureurs et cette journée-là, ça devait être Cushi qui devait courir. Il y avait chacun leur journée pour en annoncer les nouvelles. Et voici qu'un autre homme se présente. Joab dit à Cushi, bien sûr, tu vas aller annoncer la nouvelle au roi, qu'Absalom, son fils, malheureusement, lui a été tué dans la bataille. Et qu'on a gagné la victoire. Et voici qu'un autre coureur arrive à côté de Joab et dit, « Hey, son nom est Achimath. » Et Achimath dit, « Joab, laisse-moi courir. Laisse-moi aller annoncer la nouvelle au roi. » Mais Joab dit, « Pourquoi est-ce que tu veux tellement courir? C'est pas une bonne nouvelle que tu vas lui apporter, son fils est mort. » Et puis en plus, c'est pas ton tour à courir, c'est pas ta journée à courir, c'est la journée de Cushi. Mais il dit quand même si t'envoies Cushi, je veux y aller moi aussi porter la nouvelle au roi. Alors Joab dit, vas-y toi aussi. Cushi était déjà parti, mais Achimath a couru plus vite, et c'est lui le premier qui s'est présenté devant la sentinelle et devant le roi David au quartier général. Écoutez-moi bien, il y a deux coureurs qui s'en viennent. La sentinelle est debout sur sa tour, et elle annonce les deux coureurs. La sentinelle voit venir les deux coureurs presque en même temps. Le premier est Achimath. Le deuxième est Cushi. Et il annonce au roi David qui est tout près de lui, voici un coureur, David. Et David dit certainement, s'il est seul, il apporte des nouvelles de la bataille. Et il dit, j'en vois venir un autre. Et David dit certainement, lui aussi d'abord, doit amener d'autres nouvelles de la bataille. Et la sentinelle dit, au fur et à mesure qu'Achimath s'approchait, oh, il dit, le premier c'est Achimath. David est là. Oh, il dit Achimath. Oh, Achimath, c'est un homme de bien. C'est le fils de Tzadok. Attends, peut-être Tzadok, ça ne vous dit pas grand-chose ce soir, mais c'est le seul groupe de sacrificateurs qui était resté fidèle à l'Éternel dans l'Ancien Testament, alors que tous les autres avaient abandonné le service dans le tabernacle. Tzadok est un nom renommé dans l'Ancien Testament, renommé pour sa réputation, son honnêteté et sa fidélité. Maintenant, suivez-moi bien, ce soir. Lorsque la sentinelle dit, « Oh, c'est Achimath, fils de Tzadok qui s'en vient. » Première réaction de David, il dit, « Oh, si c'est Achimath, c'est un homme de bien. On peut se fier à ce qu'il va nous dire. » Et Achimath arrive, il est introduit vis-à-vis le roi David, et David lui dit, « Comment va la bataille? » Dans une certaine nouvelle, puis il dit, « Qu'en est-il d'Absalom, mon fils. » Et Achimath, cet homme avec une belle et bonne réputation, a menti au roi. Il a dit, en réalité, j'ai entendu un tumulte, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Absalom. Il a menti. Le deuxième arrive, c'est Cushi, et il est introduit à David, et David dit, qu'en est-il de la bataille? Dans certaines nouvelles de la bataille, il dit, qu'en est-il du jeune Absalom? Oh, il dit, mon roi, que tous tes ennemis soient traités comme Absalom a été traité. Il est mort. Et ça dit que le cœur de David est venu tout triste, qu'il est monté dans ses appartements, qu'il a pleuré la mort de son fils. Ce que je veux souligner ce soir, c'est ceci. vous ne pouvez pas vous fier à personne. Vous ne pouvez pas dire, oh, ça c'est un homme de bien. Hé, hey, il prêche à la télévision. On connaît son nom dans le monde entier. Si vous prenez la parole de cet homme seulement, vous êtes en danger. Et la parole nous donne un précédent ici, avec Achimath et Cushi. C'est l'homme de bonne réputation qui a trompé le roi, qui a dit des choses qui n'étaient pas selon la réalité. Ça ne veut pas dire que ces hommes de Dieu ne sont pas de Dieu, que Dieu a enlevé les ministères, comme on a prêché cette semaine. Non, 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 non. Mais ça veut dire que vous devez faire attention et vérifier pour vous-même ce qu'on vous prêche du haut du pulpit avant de crier « Amen ». Soyez sûr que vous le savez dans la parole de Dieu, ou retenez votre « Amen » et allez fouiller durant la semaine dans la parole de Dieu. Et si vous ne comprenez pas ou si vous ne voyez pas ça dans la parole de Dieu, ne l'acceptez pas. Parce que lorsque vous allez comparaître devant Dieu, vous ne pourrez pas vous défendre sur un prédicateur ou sur une église. Vous ne pourrez pas dire, c'est pas de ma faute, Seigneur. C'est le même qui nous enseignait. Le Seigneur dit, tu avais ma parole. Ça, c'est la vérité. Amen. Ce que Mario Massicotte dit, si c'est la vérité, vous pouvez le prouver par la parole de Dieu, prenez-la. Mais ce n'est pas moi qui va vous juger un jour, c'est Dieu qui va vous juger. Ce que Billy Graham dit, ça peut être bien, ça peut être extraordinaire, mais fiez-vous pas à Billy Graham. Fiez-vous à la parole de Dieu qui sort de la bouche de Billy Graham. Ça peut être n'importe quel homme de Dieu. Fiez-vous à la parole de Dieu qui sort de la bouche de cet homme-là. Éprouvez la parole de Dieu, dit. Éprouvez les esprits. Vérifiez ce qui est annoncé. Parce que nous sommes dans une époque de confusion. Une époque tellement difficile. Laissez-moi tourner rapidement. Peut-être que vous pouvez venir avec moi dans Michée. Septième chapitre. Ça dit, malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits. Septième chapitre. Comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger. Point de déprimeur, comme on aime de dire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Attention à ce que tu dis. Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Pour moi, je regardais vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice, et mon ennemi le verra. Il sera dans la honte. C'est les temps prophétisés pour nous aujourd'hui. Il y a plusieurs autres passages qu'on pourrait prendre ce soir. Les prophètes ont parlé concernant l'époque de la fin. Nous sommes là, époque de confusion. Et Paul dit, je ne voudrais pas que vous soyez comme des enfants, apportés à tout vent de doctrine, mais que vous soyez enracinés et fondés en lui, dans le Seigneur Jésus-Christ, spécialement dans ces derniers jours. Si vous ne le faites pas, Pierre nous l'a dit, vous allez être entraînés facilement par l'égarement des impies. Vous devez savoir qu'est-ce que la Bible dit. Qui dit la vérité? Qui dit vrai? Comment puis-je savoir si c'est la vérité? Laissez-moi terminer avec trois points. Je peux savoir où est la vérité? Qu'est-ce que c'est la vérité? Qui dit la vérité? Premièrement, si j'ai l'amour de la vérité. Dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, à compter du verset 9, ça dit, l'apparition de cet impie se fera par toutes sortes de signes mensongers, de prodiges et de miracles pour la séduction et la perdition de ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça prend premièrement l'amour de la vérité pour trouver la vérité. lorsque vous prêchez l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont déjà un désir pour la vérité vont sauter sur le message que vous leur présentez. Mais ceux qui n'ont pas le désir de connaître la vérité, ceux qui n'ont pas le goût de la vérité, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ça les fait ni chaud ni froid. Et il n'y a pas d'exception. Quelque temps, je prêchais dans une église et je ne savais pas, mais il y avait un prêtre catholique dans la première rangée ici en avant. Et le Seigneur me donne à la maison comme texte, Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Avoir su qu'il était là cette journée-là, je n'aurais jamais prêché là-dessus, parce qu'on n'est pas un ministère de provocation, comprenez-vous? On est un ministère où on prêche la parole de Dieu. On laisse le Saint-Esprit convaincre. Mais je ne savais pas que c'était un prêtre catholique. Et j'arrive avec mon texte ce matin-là, et je prêche la parole de Dieu, sur cette pierre, j'explique que la pierre, c'est pas l'apôtre Pierre, mais la pierre, c'est Jésus-Christ, et les deux mots qui sont si faciles à voir dans le texte grec, Petra, c'est Petra, c'est tellement clair, et à la fin de la réunion, j'ai vu cet homme s'avancer, lever la main, et venir en avant, et donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu voir après, il dit, et c'est là qu'il m'a expliqué qui il était, prêtre catholique, à sa pension, à sa retraite. Il était pas loin de cette église-là. Quelqu'un l'avait emmené, avait témoigné, l'avait emmené à l'église. Et il dit, Monsieur Mescott, il dit, j'ai jamais compris ce verset-là de toute ma vie comme je viens de le comprendre ce matin. Il dit, je viens de réaliser qu'est-ce que c'est. Et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais dans cette église-là 2-3 semaines de suite dans les réunions spéciales. Et tout de suite, la semaine suivante, il vient s'asseoir exactement à la même place en avant. Et cette fois-là, il est rentré avec un petit sac brun sous le bras. Vous savez, des sacs d'épicerie, quand vous faites votre épicerie, petit sac brun ici. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y avait dans son petit sac brun, ça avait l'air tellement précieux. Première chose que j'ai pensé, c'est que ça ne pèse pas une bombe. Vous voyez, mais déjà, quelqu'un appelait à notre bureau, puis on faisait une réunion au Tritorium, pas la dernière, il y a une couple d'années. Il a dit, si vous continuez avec votre réunion, on a placé une bombe dans le Tritorium. On a prié. On a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé d'y aller quand même. Et il n'y a pas de bombe qui a sauté. Et personne n'a appelé ce soir, je pense. Ah, là, c'est la gloire à Dieu. Ah, mais c'est une bombe. Et c'est parce qu'en avant, il sort son petit sac. Et savez-vous qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oh, puis ça avait l'air tellement précieux. Parce qu'il n'avait jamais, jamais découvert ça de toute sa vie. Et il est rendu à sa pension. Ce sont ces derniers instants qui suivent. Quelquefois, on dit, oh, on a 3 bibles, 4 bibles à la maison. C'est presque plus rien pour nous. Mais quand tu ne l'as jamais eu de ta vie, il y a 60 et quelques années, tu découvres le livre de Dieu qui c'est la vérité. Si tu as l'amour de la vérité dans ton cœur, ça devient quelque chose de précieux. Et je donnais mes références bibliques, et pauvre monsieur, il n'avait jamais lu la Bible. Il ne savait pas où c'était. Il y a plusieurs années, on témoignait dans le Butcher Brook, puis il y a un jeune qui rentre dans le presbytère, puis il parle avec, je ne sais pas si c'est le curé ou le vicaire, mais il dit, c'est dans Pierre, parce qu'il dit, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Il dit, oui, c'est dans l'épître de Pierre. Il dit, avez-vous une Bible ici? Il dit, oui, on va en avoir une. Trouve finalement une Bible. Et rouvre la Bible, puis cherchait dans l'Ancien Testament. Et le jeune homme il a dit, monsieur, Pierre, c'est dans le Nouveau Testament, à la fin de la Bible. Oui. Tellement heureux d'avoir une Bible, cette journée-là. Et il m'a dit, après cette autre réunion, il est venu me voir et il pleurait. J'ai dit, je suis triste et je suis heureux en même temps. Je dis, pourquoi? Il a dit, je suis heureux parce qu'il dit, j'ai trouvé mon sauveur. Tellement heureux de connaître la parole. Mais il dit, je suis triste en même temps parce que je suis rendu à la fin de ma vie. Et j'aurais voulu le connaître au début de ma vie. Et puis moi, je suis parti de la maison 12 ou 13 ans. Étudier, monsieur, et dit toute ma vie. Et on a étudié tous les livres des saints, tous les livres des pères de l'Église, tous les livres qu'on pouvait trouver sur la théologie. Et dit, monsieur Mascotte, le soir, on se couchait en lisant, jusqu'à temps que nos paupières tombent de fatigue et que le livre tombe sur nous et qu'on s'endort. Mais dit, pouvez-vous croire, dans toutes ces années-là, on n'a jamais étudié la Bible. Et je suis triste et joyeux en même temps. Et Dieu a permis qu'il vienne, parce qu'il y avait l'amour de la vérité dans son cœur. Et quand j'ai entendu prêcher la vérité, s'il n'y avait pas eu l'amour de la vérité, il serait sorti. Mais il est resté, il a donné sa vie à Jésus, parce que l'amour de la vérité, ça me prend l'amour, la vérité, pour la connaître. Deuxièmement, dans 2 Timothée, 2e chapitre, verset 25, ça dit que Dieu puisse leur donner de se repentir afin qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Ça veut dire si tu ne te repens pas, tu ne peux pas connaître la vérité. Marquez ça, 2 Timothée 2, 25. Dieu va leur donner la grâce de se repentir pour qu'ils puissent venir à la connaissance de la vérité. La Bible nous explique que tant que notre cœur ne pense pas par la repentance, on a un voile devant les yeux et on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre, mais Paul dit quand les cœurs se convertissent, le voile est enlevé et on comprend et on voit. Hallelujah! Quand votre cœur est bien disposé, Dieu va répondre. Ici même cette semaine, je priais avec une dame en avant. Et elle a dit, quand on a terminé de prier, je ne suis pas certain si le Seigneur a vraiment pardonné mes péchés. On a parlé longtemps ensemble. Elle est sortie d'ici incertaine. Son cœur était sincère. Son cœur était repentant. Et dans le milieu de la nuit, elle m'a conté ça le lendemain. Mardi soir, elle m'a dit ça. Elle dit, vers 4 heures du matin, j'avais demandé au Seigneur avant de me coucher, est-ce que c'est la vérité, ça? Qu'est-ce qui était annoncé? Est-ce que vraiment tu pardonnes tous mes péchés? Est-ce que c'est vrai que j'ai plus de péchés? Est-ce que c'est vrai que ton sang vraiment m'a pardonné? Je suis un enfant de Dieu et je suis sainte maintenant. C'est la journée qu'on a parlé, qu'on est sainte, maintenant qu'on accepte le Seigneur. Elle s'est couchée comme ça. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe, Seigneur, si vraiment c'est la vérité. Et elle m'a dit, vers 4 heures du matin, soudainement Dieu lui a donné une vision. Et dans sa vision, elle a vu une croix, la croix de Golgotha, illuminée, radieuse. Et tout autour, c'était des ténèbres. Et plus la croix s'approchait d'elle, plus elle était brillante, et plus les ténèbres se sont en allées, ont disparu, et tout est devenu brillant. Et c'est comme si le Seigneur lui disait, c'est la vérité. Mon sang te pardonne complètement. À cause de ma croix, l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix de Golgotha, tes ténèbres sont partis, tes péchés sont partis, et maintenant, à cause de ma croix, ta vie est glorieuse et sans péché. Parce que son cœur est sincère. Si tu te repens, la Bible dit que tu vas parvenir à la connaissance de la vérité. Et troisièmement, dernièrement, dans Jean chapitre 8, versets 30 jusqu'à 37, Jésus dit, si vous persévérez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oh, hallelujah! J'aimerais ça encore avoir une heure juste pour vous parler sur Jean chapitre 8, versets 30 jusqu'à 37. Si tu persévères dans ma parole, ça veut dire faut que tu fouilles, faut que tu manges, faut que tu cherches. Vous voulez savoir la vérité? Prenez un thème, le salut, la guérison, la délivrance, peu importe, et commencez à fouiller de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Achetez-vous les concordances que vous avez besoin et fouillez la parole de Dieu d'un couvert jusqu'à l'autre sur tout ce thème-là que vous voulez connaître. Vous voulez connaître le thème du salut? Faites-le d'un bout à l'autre de la Bible. Écrivez vos versets. Étudiez-les. Et à un moment donné, vous allez savoir qu'est-ce que c'est. Vous allez savoir si Dieu ou non guérit les malades. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu donne aujourd'hui encore ou s'il ne donne pas aujourd'hui encore? Vous n'aurez pas besoin de Pierre Jean-Charles pour venir vous expliquer qu'est-ce que c'est. Dieu va vous le révéler parce que vous, vous êtes donné la peine de persévérer dans sa parole. Hallelujah! Si vous persévérez, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Dans la parole de Dieu, ça dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Hallelujah! Il n'y a pas plus libre qu'un enfant de Dieu. Nous sommes libres parce qu'on a connu la vérité. Et la vérité nous a rendus libres. Les religions attachent de lourds fardeaux sur vos épaules. Dites, tu n'as pas le droit de faire ceci, voici nos commandements, voici nos préceptes, mais la vérité vous rend libre, hallelujah. Chaque fois que vous découvrez la vérité, ça vous affranchit. Chaque fois que quelqu'un vient prêcher et vous met des fardeaux sur vos épaules, vous pouvez être certain d'une chose, c'est pas la vérité que vous venez entendre. Parce que la vérité, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est révélée, elle a le pouvoir de nous libérer. Nous sortons d'ici libres, encouragés par la parole du Seigneur, délivrés, libérés, parce que la vérité nous rend libres. Hallelujah! On n'a plus de tabou. On n'a plus de religion. On n'a plus de religiosité. Débarrassez-vous de ces choses-là. Jouez pas à la religion. Jouez pas en faisant semblant. Oh! Non, 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 non. La vérité nous rend libres. Alléluia. Pas libre dans le sens qu'on a. On a une licence pour aller commettre le péché. Mais libre dans le sens qu'il n'y a aucune religion, aucune institution, aucune tradition, aucune personne qui dit des fardeaux sur nos épaules. Mais nous sommes libres parce que la vérité nous a tranchés. Vous allez devoir passer du temps dans ce livre-là si ne vous voulez pas être séduit. C'est dans une église à Montréal, plusieurs années passées, supposément un évangéliste, grand évangéliste américain. Et les chrétiens étaient tous emballés parce qu'ils étaient là sur la plateforme en train d'exercer, selon eux, la parole de connaissance. Tandis qu'en réalité, c'était le don de divination qui était en opération. Vous savez que ça se ressemble beaucoup. Tout ce que Dieu a, Satan va le copier. Et s'il y a des dons d'esprit et un don qui s'appelle la parole de connaissance, Satan a des dons aussi qui émettent la parole de connaissance et ça s'appelle le don de divination. Vous vous souvenez de Paul? Lorsque cette dame le suivait, elle disait, hein, ce sont des hommes de Dieu, viennent vous annoncer tel message. La Bible dit que cette personne était animée d'un esprit de Python, P-H-Y-T-O-N. Pas parce qu'elle était couturière, c'est pas un esprit de Python comme ça. Le grec dit un esprit de divination. Elle devinait des choses. Et sur la plateforme, cette journée-là, le supposé évangéliste devinait, c'est le temps de l'offrande. Puis il devinait l'argent que vous aviez dans vos sacoches ou dans vos portefeuilles. Il y a un 5 en 2, 10. Dieu me dit de le donner dans l'offrande. Devinez les adresses. Vous demeurez au 32, 25, Montée Saint-Hubert. C'est mon adresse. Oh, quel homme de Dieu. Dieu ne s'amuse pas à des niaiseries semblables. Comprenez-vous? Ça, c'est le don de divination qui est en opération. C'est Satan lui-même qui agit. Dieu ne travaille pas de cette manière-là. Dieu ne donne pas de spectacle. Dieu n'est pas dans la business du show business. Comprenez-vous? Lorsque la vraie parole de connaissance est donnée, c'est pour un besoin précis, pour aider, pour édifier, pour construire le corps de Christ, pas pour devenir vos adresses. Mais nous sommes tellement peu avancés dans la connaissance de la parole qu'on est des proies faciles pour l'être. Parce qu'on ne discerne pas. Et c'est ce que Paul veut dire en terminant tout propre. Ne soyez plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, mais croissez dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Connaissez pour vous-même ce que dit la parole et ne soyez pas séduits par personne. Fermons nos yeux en terminant ce soir et ainsi.